Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Chin chin, les yeux dans les yeux, tout sourire. Il y a un petit côté coup de foudre à la Maison Blanche. Grand dîner de gala hier soir entre Emmanuel Macron et Joe Biden. Au menu, homard, fromage made in USA et gâteau à l'orange. Mais que restera-t-il de cette visite d'État? La photo, les mots doux, vendredi thématique sur Europe 1, France-USA. Je t'aime, moi non plus. Bonjour Jacques Seret.
Bonjour.
Envoyé spécial d'Europe 1 aux États-Unis, vous avez fait partie des journalistes triés sur le volet pour assister hier soir au toast des présidents à la Maison Blanche. Hier matin, on s'en souvient, vous nous aviez promis un compte-rendu. Alors, cette soirée?
Ce dîner d'État s'est terminé il y a une heure et demie ici à Washington. Et ce que je peux vous dire, c'est que l'administration Biden n'a pas lésiné sur les moyens. Cette soirée de gala s'est tenue sous une immense tente installée sur la pelouse de la Maison Blanche. Des dizaines de tables ovales et autant de chandeliers disposés au milieu de roses rouges et blanches pour la réception des quelques 350 invités, tous en smoking et robe de soirée.
Jacques, derrière les sourires, derrière les mondanités, quel bilan politique peut-on tirer de cette visite d'État d'Emmanuel Macron ?
Eh bien écoutez, dans l'entourage du président, tout le monde se félicite de cette visite. Joe Biden se dit prêt à d'éventuels ajustements pour satisfaire les alliés mécontents. C'est une avancée majeure, juge un proche d'Emmanuel Macron. Sauf que voilà, le président américain a dans le même temps déclaré qu'il n'avait pas à s'excuser, qu'il assume ce plan anti-inflation. Joe Biden enjoint d'ailleurs les Européens à faire de même. Emmanuel Macron, qui était venu chercher des exemptions pour les industriels européens, repart aujourd'hui de Washington sans annonce concrète.
Jacques Seret, envoyé spécial d'Europe 1 aux États-Unis, qui suivra Emmanuel Macron aujourd'hui en Louisiane. Le président de la République veut y célébrer la francophonie qui traverse le temps dans cette ancienne colonie française.
Cette relation franco-américaine, je vous donne rendez-vous à 8h40. On en parlera plus en longueur avec la professeure spécialiste de l'Amérique, Anne Desine, et l'ancien ambassadeur de France aux États-Unis entre 1995 et 2002, François Bujon de l'Étang. À vos agendas maintenant, retenez cette date, 15 décembre, c'est dans deux semaines, après des mois de concertation. Elisabeth Borne y dévoilera la réforme des retraites.
Calendrier strict, objectif clair, même si la contestation s'annonce vive, la Première ministre n'entend pas dévier de sa route. Dans Le Parisien, aujourd'hui en France, ce matin, elle détaille les grandes lignes de ce projet. Baptiste Morin, ce qu'on retient surtout, c'est que le gouvernement veut agir très vite.
La réforme entrera en vigueur dès l'été prochain. Elle concernera les personnes nées après juillet 1961. L'âge légal de départ à la retraite sera progressivement repoussé. Elisabeth Borne vise 65 ans à l'horizon 2031. Mais pour l'heure, pas question de trancher puisque les concertations viennent de reprendre avec les partenaires sociaux. Pour le reste, la Première ministre ne souhaite pas augmenter l'âge d'annulation de la décote qui restera à 67 ans. Elle veut par ailleurs maintenir et même assouplir le dispositif carrière longue qui permet de partir au moins 2 ans avant l'âge légal lorsqu'on a commencé à travailler avant 20 ans. Elisabeth Borne annonce aussi vouloir prendre en compte les périodes de congé parental dans le calcul de la durée de cotisation. Quant à la question de l'emploi des seniors, pas de sanctions prévues pour les entreprises qui se séparent des actifs de plus de 55 ans. Celles-ci devront en revanche publier des chiffres sur la formation et le recrutement de ces travailleurs.
Baptiste Morin du service économie d'Europe 1. Elisabeth Borne qui annonce également une retraite minimale portée à 1200 euros pour une carrière complète et la fin des régimes spéciaux pour les nouveaux embauchés, notamment dans l'industrie électrique et gazière et à la SNCF.
En bref, la SNCF dont les contrôleurs entrent en grève aujourd'hui, c'est un week-end compliqué qui s'annonce sur le rail.
Et ils réclament une hausse de leur salaire. Seuls 4 TGV et Intercités sur 10 devraient circuler entre aujourd'hui et dimanche. Par ailleurs, grève reconduite chez GRDF. Le préavis déposé hier court jusqu'au 3 février.
Ouais, c'est la question qui monte. Comment on fait quand on n'a plus d'électricité?
Eh bien, les délestages envisagés à partir du mois de décembre en cas de forte tension sur le réseau vont avoir un impact direct sur notre foyer. Plus de lumière, plus d'internet, plus de téléphone, de machine à laver, de four, de frigo. Et ce sera aussi la galère dans la rue ou le travail. C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1 ce matin. Guillaume Dominguez.
Oui, et vous allez vous rendre compte à quel point notre quotidien dépend des systèmes électriques. En cas de délestage, oubliez les ascenseurs et les escalators. Oubliez aussi les métros et les tramways. Tous les transports ferroviaires seront à l'arrêt. Si vous prenez la voiture, pas de station-service. Les pompes ne fonctionneront pas, tout comme les feux de signalisation et l'éclairage public. Même s'ils sont considérés comme des infrastructures prioritaires, il est possible qu'ils soient éteints dans certaines zones, prévient le ministère de la Transition énergétique. Oubliez aussi la carte bleue, il sera impossible impossible de payer avec, selon Yann Delbo, ingénieur en système électrique.
Ce qui peut être impacté, effectivement, ce sont les systèmes pour les achats, notamment. Ne serait-ce qu'aller acheter quelque chose chez son commerçant pourrait être compliqué parce que tous les TPE et les modules de paiement, notamment, sont alimentés électriquement. Donc, il peut être prudent de retirer de l'argent liquide.
Pour retirer des espèces, oubliez les distributeurs de billets, ils seront à l'arrêt. Sachez que vous risquez également de trouver porte-close dans certains magasins. Les sas d'entrée sont bien souvent électriques, tout comme ceux de nombreux immeubles.
Guillaume Dominguez.
Voilà, le tuto de la rédaction d'Europe 1, là c'est même le tuto du mois de janvier à retrouver tous les matins dans votre journal de 8h. L'actualité judiciaire à présent, la Cour de cassation donne raison à AXA dans son bras de fer avec plusieurs restaurateurs.
Et près de 3 ans après le début de la pandémie, l'assureur qui refusait d'indemniser les pertes d'exploitation subies par les restaurateurs pendant les fermetures administratives liées au Covid a gagné son combat. Il a cependant dépensé 300 millions d'euros pour trouver une solution amiable à ces conflits.
Qui en veut à Bernard Henri Lévy? Un journal américain, le Washington Post, affirme que l'intellectuel français aurait fait l'objet d'une tentative d'assassinat.
Oui, son nom apparaît dans une liste de personnalités qui seraient dans le viseur du régime iranien. Y sont cités des journalistes, des diplomates, des activistes et donc Nina Droff, notre fameux BHL.
Oui, selon le Washington Post, le journaliste français figure sur cette liste de personnalités qui représentent, selon le gouvernement iranien, une menace pour le régime. Bernard-Henri Lévy serait la cible d'une tentative d'assassinat orchestrée par l'unité d'élite des gardiens de la révolution islamique, Al-Quds. Le mode opératoire aurait même été établi. Un dealer iranien à Paris aurait été approché pour exécuter le crime en échange de la somme de 150 000 dollars à partager avec ses complices. Une méthode souvent utilisée par le gouvernement pour assassiner ses opposants. Bernard-Henri Lévy a toujours pris position contre le régime des Mollahs. En octobre dernier encore, il appelait à un soulèvement émancipateur en Iran. D'après l'enquête du quotidien américain, de plus en plus d'enlèvements et d'assassinats seraient planifiés par le pouvoir iranien. D'ailleurs, sur cette liste figurent de nombreuses autres personnes, notamment John Bolton, ancien conseiller de la Maison-Blanche, des hommes d'affaires israéliens basés à Chypre, ou encore des dissidents iraniens ayant fui le pays.
Nina Droff.
La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, Europe 1, radio officielle.
Et oui, l'heure est au football. Adieu l'Allemagne, éliminée hier au Qatar malgré sa victoire 4-2 face au Costa Rica. Sacré coup dur quand même pour la Mannschaft. En revanche, ça passe pour l'Espagne et le Japon. Tous deux ont leur ticket pour les huitièmes de finale.
Et ils rejoignent donc les Bleus qui joueront leur premier match de huitième dimanche à 16h face à la Pologne. Rencontre à suivre évidemment dès 15h sur Europe 1 en direct et en intégralité. En attendant ce rendez-vous crucial, l'équipe de France garde le rythme. Entraînement intensif hier pour les remplaçants pendant que les titulaires récupèrent. Préparation très sérieuse, hein, Cyril de la Morinerie.
Oui, les Bleus se penchent déjà sur leur adversaire, la Pologne, qui malgré sa défaite contre l'Argentine et une qualification sur le fil, a de solides arguments, notamment une superstar en attaque, Robert Lewandowski, l'un des meilleurs avant-centres de l'histoire, joueur phare du FC Barcelone, mais qui s'est révélé en Bavière. Le français Kingsley Coman, qu'il a côtoyé au Bayern Munich, lance cet avertissement.
Je pense que le mieux, c'est qu'il n'ait pas la balle. C'est le plus simple, c'est un attaquant de pointe. Donc si on arrive à faire en sorte qu'il n'ait pas d'occasion à avoir sous la dent, bah, ça sera forcément mieux pour nous.
Elliot, supporter des Bleus qui habite à Doha, est méfiant.
On a Lewandowski, ils ont une super défense, on va voir ce qu'on peut faire. On a confiance sur l'attaque, on a une très très forte attaque et c'est là où il faut tout miser. On verra ce que ça donne. Oh, on va dire un 2-0 pour la France.
2-0, ce serait une belle revanche. Les Bleus qui n'ont affronté qu'une fois la Pologne en Coupe du Monde en 1982 lors du troisième match de groupe s'étaient inclinés 3-2.
Cyril de la Morinerie depuis Doha au Qatar. Ne manquez pas 8h30 le journal de la Coupe du Monde sur Europe 1.
Voilà les dernières infos, les échos qataris. Ce sera avec Jean-François Pérez. Merci beaucoup Fanny Martin.